Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, ce matin nous te demandons que ta parole nous parle encore, qu'elle nous fasse voir Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur, dans sa beauté, dans sa grandeur. Nous te le demandons en son nom. Amen. Le monde dans lequel nous vivons est parfois un monde bien déroutant. Vous avez, comme moi, rencontré des gens qui ont eu des enfants et qui n'auraient jamais voulu en avoir. Et inversement, vous avez, comme moi, rencontré des gens qui auraient voulu avoir des enfants, mais qui n'en ont jamais eu, et qui feraient tout pour en avoir. Les choses sont vraiment mal faites, ne trouvez-vous pas? Aujourd'hui, vous avez des personnes qui s'arrangent pour ne pas avoir des enfants parce qu'elles considèrent qu'elles ont besoin de développer une carrière professionnelle et que ça leur donne plus de bien-être, ça leur donne plus d'honneur et de satisfaction de poursuivre une carrière professionnelle. Autrefois, c'était exactement l'inverse. Quand vous allez jusque dans les temps bibliques, on pensait que lorsqu'une femme n'avait pas d'enfant, elle était frappée de la plus grande des malédictions qui puissent exister. Une femme qui n'avait pas d'enfant dans cette culture était perçue comme une femme que Dieu avait rejetée. Et on comprenait les choses de telle sorte que c'était comme si Dieu avait dit à cette personne, écoute, ta vie peut s'arrêter ici, elle n'a pas besoin de se continuer dans le souvenir de tes enfants et dans l'honneur de tes enfants. Ta vie peut s'arrêter là, elle ne vaut pas la peine de continuer plus loin. Une femme qui n'avait pas d'enfants était une femme qui considérait que sa vie était terminée, qu'elle ne servait à rien et que Dieu n'avait surtout pas besoin d'elle. Ne pas avoir d'enfants était donc quelque chose de très lourd à porter. La société, la pression sociale avait rajouté à tout cela pour faire que ces idées fausses étaient pour les femmes stériles un fardeau énorme. C'est la raison pour laquelle, je crois, Dieu a exprimé beaucoup de compassion envers les femmes stériles. Les Saintes Écritures nous parlent de 7 femmes qui sont stériles. 7 femmes dans le peuple de Dieu qui ont été l'objet de la grâce, de la compassion de Dieu, parce que ces 7 femmes stériles ont toutes eu, à un moment donné, au moment choisi par Dieu, l'occasion d'avoir un enfant. Ces enfants miracles, ces enfants donnés de la part de Dieu, ont tous une caractéristique commune. Tous ces enfants miracles, tous ces bébés que Dieu a donnés, ont tous une caractéristique qui nous font comprendre ce grand bébé miracle, ce cadeau extraordinaire que Dieu a donné à l'humanité stérile en Jésus-Christ. Alors j'aimerais vous inviter ce matin à regarder comment Dieu a parlé au travers de ces miracles qu'il a donnés à ces 7 femmes stériles de la parole de Dieu. La première, je pense que vous la connaissez, c'est Sarah. Nous trouvons son histoire dans le livre de la Genèse. Au chapitre 11, il nous est dit que Sarah était stérile. Puis au chapitre 17 de la Genèse, au verset 15, nous lisons ceci. Genèse, chapitre 17, verset 15. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois, des peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Une promesse est faite. Une promesse irréalisable, une promesse impossible. la naissance impossible d'un enfant à Abraham et à Sarah. C'est trop tard, Seigneur. C'est trop tard. Et pourtant, vous vous souvenez que malgré le sourire intérieur d'Abraham et le sourire extérieur de Sarah quand elle a appris cette promesse, un fils est né, Isaac. Le fils inespéré, la promesse irréalisable, la naissance impossible, Isaac est né. Plus la honte était grande, plus la gloire est extraordinaire quand finalement elle est accordée, et plus, bien entendu, l'origine divine est éclatante aux yeux de tout le monde. Isaac, l'enfant qui est né par la puissance et par la grâce de Dieu, l'enfant miracle de Sarah. Et puis, cet enfant grandit et le drame arrive. Le drame nous est raconté un peu plus loin dans le livre de la Genèse, au chapitre 22, où Dieu s'adresse de nouveau à Abraham. Et il lui dit, au verset 2, Genèse, chapitre 22, verset 2, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te montrerai. » On ne peut pas se tromper, ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, c'est clair. Abraham ne peut pas dire, il y a eu un malentendu. Va, prends-le et offre-le en sacrifice. Vous connaissez la suite de l'histoire. C'est dommage parce que finalement, elle n'a plus beaucoup d'impact quand on y pense. Mais ceux qui sont pères parmi nous peuvent peut-être imaginer un peu ce qu'un tel ordre peut représenter. Surtout quand arrivé à l'âge de 100 ans, on n'en a pas encore d'enfant. Et puis finalement, au dernier moment, dans ce même chapitre 22, au verset 12, l'ange de l'Éternel arrive et dit « N'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé Yiré. L'Éternel a pourvu. Au dernier moment, ouf, Dieu est intervenu. Vous pouvez imaginer tout ce qui s'est passé dans la tête d'Abraham. Pourquoi donc Dieu me donne-t-il un fils si c'est pour me le reprendre? Et pourtant, Abraham, Dieu le lui répète, a eu assez de foi pour lui donner son fils, son unique. Isaac, l'enfant impossible de la femme stérile, c'est l'enfant sacrifié. C'est l'enfant impossible qui n'a pu naître que par la puissance de Dieu, et c'est l'enfant sacrifié. D'ailleurs, vous connaissez ce passage par cœur du Nouveau Testament où il est question aussi du Fils unique. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Isaac, c'est le fils du miracle, c'est le fils sacrifié. Il nous parle aussi de l'enfant miracle, de celui qui a été sacrifié. La deuxième femme stérile que les Écritures mentionnent se trouve décrite un peu plus loin au chapitre 25 du livre de la Genèse. Et il s'agit de Rebecca. Genèse, chapitre 25. Il nous est dit au verset 21, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Et Rebecca va avoir des jumeaux, Ésaü et Jacob. Elle aussi était stérile. Son mari intercède, et Dieu entend, et Dieu exauce, et Dieu donne les enfants. D'ailleurs, Dieu va même lui préciser comment les choses vont se passer avec ces deux jumeaux. Un peu plus loin dans le texte, au verset 23, Dieu lui dit « Le plus grand sera assujetti au plus petit ». Cette prophétie est restée dans l'esprit de la maman. Et c'est en fait ce qui s'est produit. Le rejeton, le dernier, est celui qui a dominé et qui a été à l'origine du peuple de Dieu. Le dernier, le petit, le faible, celui en qui on ne mettait guère d'espoir, à côté de l'autre qui était fort, robuste. Le Nouveau Testament nous parle aussi de ce rejeton dans l'Épître aux Romains, où l'apôtre Paul cite le prophète Ésaïe au chapitre 15 de son Épître. Épître aux Romains, chapitre 15, l'apôtre Paul cite le prophète Ésaïe au verset 12. Romains, chapitre 15, verset 12. Il est écrit ceci. « Il sortira d'Isaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. » Et ce rejeton, nous dit l'apôtre Paul, c'est Jésus lui-même, le faible, cette petite plante. Jacob, c'est le père du peuple de Dieu. C'est le père du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. C'est le père des 12 tribus, et par prolongation aussi le père des 12 apôtres, le peuple de Dieu du Nouveau Testament. C'est aussi lui, le patriarche de l'Église, le peuple de Dieu. La parole de Dieu nous présente Jésus comme étant la tête de l'Église, l'origine du peuple et de l'Église qui est son peuple aujourd'hui. Jacob en est la figure annonciatrice. La troisième femme stérile que les Écritures nous présentent est décrite encore dans le livre de la Genèse au chapitre 30. Dans le livre de la Genèse au chapitre 30 et au verset 22. Genèse chapitre 30 verset 22 dit ceci. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et la rendit féconde. Rachel, finalement, va avoir un fils. Le texte nous dit, elle lui donna le nom de Joseph. Joseph a pour elle une signification très forte. Le texte le souligne. Elle devint enceinte, elle enfanta un fils, et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. C'est ce que nous disions en commençant, une femme qui n'a pas d'enfant. Elle était considérée à tort, et c'était l'idée que l'on avait développée à tort, que Dieu l'avait rejetée, qu'elle n'était d'aucune utilité, que sa vie s'arrêtait là, qu'elle n'avait pas d'avenir, pas de postérité, pas d'avenir, pas de vie, rien. Et Rachel va dire, la honte a été enlevée de ma vie. Et elle a un enfant, Joseph. On peut imaginer cette joie énorme qu'une mère peut avoir lorsque, de toute évidence, elle ne peut pas avoir d'enfant lorsque finalement Dieu entend, Dieu exauce, comme dit le texte, et lui donne un enfant, un héritier. Mais là encore, cet enfant grandit, il est choyé par son père en particulier parce que il est l'enfant de la femme aimée. Et puis c'est le drame de nouveau. C'est le drame de nouveau au chapitre 37 de la Genèse, nous lisons quelque chose de curieux. Chapitre 37 de la Genèse au verset 26. Cet enfant aimé, aimé de son père, cet enfant super aimé de son père, est haï de ses frères. Et il nous est dit, verset 26, dans la Genèse au chapitre 37, « Alors Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang ? Venez, vendons-le ! Vendons-le !» Et il est curieux de voir que dans les 12 fils, c'est Judas qui va proposer ça. Maintenant, dans le livre de, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 26, nous lisons quelque chose de curieux encore. Évangile selon Matthieu, chapitre 26, au verset 14, il est écrit ceci. Évangile selon Matthieu, chapitre 26, verset 14. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, « Que voulez-vous me donner ? Et je vous le livrerai. » Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment-là, il cherche une occasion favorable pour livrer Jésus. Le même Judas. 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 Qui vend son frère, son maître. Joseph, le fils de Rachel, le fils impossible, le fils qui est un miracle, c'est l'image de celui qui a été vendu parce qu'il était haï par ses frères. Et nous retrouvons là encore une image de celui qui a été vendu parce qu'il était haï de tous ses frères, les hommes. L'apôtre Pierre rebondit sur cette notion de rachat, de vendre et de racheter. Et vous vous souvenez ce qu'il dit ? Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. La quatrième femme stérile dont les Écritures nous parlent est décrite dans le livre des Juges au chapitre 13. Dans le livre des Juges au chapitre 13. Nous ne connaissons pas son nom. Nous connaissons par contre le nom de son mari, Manoac. Il nous est dit au verset 3 du livre des Juges, chapitre 13. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile, tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. » Nous ne connaissons pas son nom. Nous savons que son mari, Manoac, va participer avec elle à cet événement extraordinaire. L'ange va les visiter encore une fois. Mais il est curieux de noter une chose, c'est que l'annonce de la naissance de cet enfant vient à un moment particulier. On apprend d'après le texte, dans les versets qui précèdent, que le peuple hébreu avait été soumis à la pression de l'ennemi pendant 40 ans. À la fin de ces 40 ans, Dieu parle à la femme de Manoac et lui dit « Voilà, tu auras un fils. C'est lui qui sera le libérateur de mon peuple. » À la fin des 40 ans, cette promesse se réalise. Celui qui va naître comme réalisation de la promesse faite à la femme de Manoac, nous le connaissons, il s'appelle Samson. Et il est connu dans les Écritures pour avoir été revêtu d'une force qu'aucun être humain n'a jamais eu. Écoutez, c'est un homme que l'on essaye d'enfermer dans une ville, à l'époque où il y a des murs et à l'époque où il y a des portes. Alors, les portes des villes ne sont pas faites en contreplaqué, croyez-moi. les portes des villes d'autrefois étaient supposées résister aux béliers des attaquants. Et on essaye d'enfermer Samson dans une ville. Pour Samson, ce n'est pas un problème. Il va prendre la porte. Il va la prendre sur son dos avec le montant de la porte, avec le tour de la porte. Et il part en haut d'une montagne, la porte sur son dos. Un homme extraordinaire dont la force dépasse l'imagination. Nos contemporains ont essayé de copier ça, mais il a fallu qu'ils inventent une potion magique pour avoir une force pareille. Samson, l'homme tout-puissant. Jésus, parlant à ses disciples, leur disait « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Mais qui peut vaincre le monde? Dans l'évangile de Marc au chapitre 12, l'évangéliste va reprendre une citation de l'Ancien Testament, nous montrant qui est ce Jésus. Lui-même, dans une conversation avec ses opposants, va leur poser la question par rapport aux prophéties qu'ils connaissent bien. Évangile selon Marc, chapitre 12, nous lirons à partir du verset 35. Jésus, continuant à enseigner dans le temple, dit « Comment les scribes disent-ils que le Christ est le fils de David ?» David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit « Le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » David lui-même l'appelle Seigneur, comment donc est-il son fils? Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. Jésus interpelle les peuples de son temps, les gens de son époque, sur les prophéties, et leur demande, mais enfin, de qui est-il dit? Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. De qui donc a-t-il dit cela? Il essayait de faire comprendre que cet homme qu'ils avaient devant lui était le Christ, et que c'est lui qui serait le vainqueur. Que tous ses ennemis seraient sous ses pieds. Qu'il était en réalité, malgré les apparences, le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Samson, dans son temps, l'enfant miracle de la femme de Manoac est une image du Tout-Puissant. La cinquième femme stérile dont la Bible nous parle est décrite dans le livre de Samuel au chapitre 1er. Et vous avez déjà deviné son nom, c'est Anne. Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 1er, nous apprenons que Anne est stérile. Son mari Elkana a beaucoup d'affection pour elle, il la traite avec beaucoup de douceur. Mais Anne est stérile. Elle va faire la seule chose qu'elle croit efficace. Anne va aller au temple. Et elle va prier. Cette démarche ne sera pas comprise par le sacrificateur. Mais Anne va aller au temple, elle va demander à Dieu d'enlever la honte qu'elle porte sur son dos de ne pas avoir d'enfant. Et elle promet à Dieu que s'il répond à sa prière, l'enfant qu'elle aura lui sera consacré. Dans le premier chapitre du livre de Samuel, nous lisons au verset 11 l'engagement de cette femme envers Dieu dans sa prière. Elle fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie pas ta servante. Et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Si tu me donnes un enfant, en fait, il sera à toi. toute sa vie. Et cet enfant qui est né un an plus tard, vous connaissez son nom. Il s'appelle Samuel. Ce petit enfant qui, dès qu'il a été sevré, a été placé dans le temple et à qui Dieu a parlé alors qu'il était même enfant. Samuel, c'est celui qui est dans le temple, c'est le sacrificateur. C'est celui qui va passer sa vie dans le temple. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Hébreux, nous rappelle aussi cela en disant au chapitre 8 et au verset 1 de l'Épître aux Hébreux. Hébreux, chapitre 8, verset 1. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Samuel, c'est l'image du souverain sacrificateur, S majuscule, qui n'officie pas dans le temple fait de main d'homme, mais qui est dans le sanctuaire céleste et qui intercède pour tous les hommes qui l'ont choisi comme leur souverain sacrificateur. La sixième femme stérile dont la Bible nous parle est décrite dans le deuxième livre des Rois au chapitre 4. Dans le deuxième livre des Rois au chapitre 4, il est question là d'une femme dont nous ne connaissons pas le nom. Mais nous savons que cette femme était stérile. Elle aimait Dieu, elle aidait le prophète Élisée, lui avait même construit pour lui une chambre haute où il pouvait se retirer lorsqu'il venait et passait dans ses voyages. Au point que Élisée a cherché à remercier cette femme et son serviteur lui a dit: elle n'a pas d'enfant et son mari est vieux. Alors Élisée lui a fait une promesse: tu auras un enfant. Et effectivement, dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 4 et au verset 17, il nous est dit: cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. Cette femme, qu'on appelle la Tsunamite, avait eu du mal à croire ce que le prophète lui avait dit. Pour elle aussi, c'était trop tard. Mais cet enfant est né, et nous ne connaissons pas non plus son nom. Mais il a grandi, faisant la joie de son père et de sa mère. Et puis là encore, c'est le drame. Un jour, cet enfant tombe parce que il est resté au soleil trop longtemps, peut-être. Et lorsqu'on la porte dans les bras de sa mère, il est mort. La réaction de cette femme est extraordinaire. Elle ne dit rien à personne. Elle prend un âne, elle s'en va, elle court chez le prophète. Et à tous ceux qu'elle rencontre, et même le prophète qu'elle rencontre, elle dit: paix, paix, shalom. Tout va bien. Et elle va interpeller le prophète et lui dit: mais enfin, est-ce moi qui t'ai demandé un enfant? Dieu, dans sa grâce, me l'a donné, pourquoi donc me l'a-t-il repris? Dieu a laissé cet enfant mourir parce qu'il avait un plan pour lui. Élisée va se rendre vers l'enfant. Et vous vous souvenez comment Élisée, nous dit le texte, va implorer Dieu. Il pria l'Éternel. Et l'Éternel lui a rendu la vie. Au miracle extraordinaire et impensable de sa naissance, Dieu a ajouté celui de sa résurrection. C'est exactement ce qu'il a fait aussi. Pour celui qui était l'enfant du miracle, dans sa naissance, auquel a été ajouté le miracle encore plus inconcevable, même par ses disciples. le miracle de la résurrection. Cet enfant dont nous ne connaissons pas le nom, c'est celui qui, bien longtemps à l'avance, représente le ressuscité. D'ailleurs, souvenez-vous, lorsque les femmes sont au tombeau, les anges leur adressent la parole et disent « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Et dans le livre de l'Apocalypse, lorsque Jésus se présente au début de sa vision à son disciple Jean, il lui dit « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. » Cet enfant impossible, vit deux fois l'impossible dans sa naissance et dans sa résurrection, pointant longtemps, longtemps à l'avance, le doigt vers celui dont on ne croirait pas à la naissance et dont on croirait encore moins à la résurrection. La septième femme stérile dont la parole de Dieu nous parle est décrite dans le livre dans l'évangile de Luc au chapitre 1er. Évangile selon Luc, chapitre 1er. Et il est là question de Zacharie et d'Élisabeth. Dans ce chapitre, il nous est dit que Zacharie et Élisabeth, très consacrés à Dieu, étaient maintenant âgés et n'avaient point d'enfants. Zacharie est un sacrificateur. Et vous vous souvenez comment un ange va se présenter à Zacharie au moment où il est en service dans le temple. Et il va lui annoncer que sa femme va enfanter un fils. Pour lui, c'est encore une impossibilité. Et il demande, mais à quel signe saurais-je que c'est vrai? Et le signe que l'ange lui donne est tout à fait curieux. Il lui dit, le signe, il est simple. À partir de maintenant, jusqu'à la naissance de cet enfant, tu seras muet. Le père est muet. Vous vous rendez compte? Voilà un père qui toute sa vie a peut-être attendu avec impatience un fils. Et lorsqu'enfin la bonne nouvelle vient, il ne peut même pas la dire. Il est muet. C'est un drôle de signe quand on y pense. C'est comme si, dans tout ce temps de préparation, il fallait du silence, la non-parole, pour que lorsque la parole viendrait, on l'entende, on l'écoute. Jean-Baptiste est né. L'enfant impossible, la naissance inimaginable, Jean-Baptiste. Et souvenez-vous, lorsque Jean-Baptiste était dans les eaux du Jourdain et qu'il a baptisé Jésus, c'est la voix de Dieu même que l'on a entendue et qui disait « C'est ici, mon fils bien-aimé ». Curieusement, lorsque l'évangéliste Matthieu présente Jean-Baptiste, il va encore citer l'Ancien Testament dans l'évangile de Matthieu au chapitre 3, se reportant au prophète Ésaïe. Matthieu va décrire Jean-Baptiste d'une façon intéressante. Il va dire dans son évangile, chapitre 3, verset 3, Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Il va présenter Jean-Baptiste comme étant la voix qui crie dans le désert. Jean-Baptiste, c'est l'annonce de la parole. Son père a été muet pour que l'on attende enfin la venue de la parole. Et lorsque Jean baptise, c'est Dieu qui parle. Et commence à ce moment-là le ministère de la parole faite chair, de la parole dans sa plénitude, de celui qui dans l'Apocalypse est présenté comme étant la parole de Dieu. Dans le chapitre 19, lorsque le retour de Jésus est décrit, il est dit « Il est revêtu d'un vêtement teint de sang ». Son nom est la parole de Dieu. Jean-Baptiste, c'est l'annonce de la parole faite chair, de la parole de Dieu. Toutes ces femmes stériles ont été l'objet d'une grâce particulière de la part de Dieu. C'est sept femmes qui nous sont présentées dans les Écritures comme ne pouvant avoir d'enfants, ont été l'objet de cette bénédiction de Dieu. Elles ont eu un enfant, elles ont eu un fils. Et chacun de ces enfants illustre un aspect, une facette du ministère de l'enfant miracle de Jésus notre Sauveur. Isaac, c'est l'enfant de la promesse, impossible à réaliser, c'est le sacrifié. Jacob, c'est le père du peuple. Joseph, c'est le méprisé, le vendu par ses frères. Samuel, c'est celui qui est dans le temple, c'est le sacrificateur. Samson, c'est le tout-puissant. Le fils de la Tsunamite, c'est le ressuscité. Jean-Baptiste, c'est la parole. Maintenant, je pense à nous aujourd'hui qui sommes tous rendus stériles par le péché. Nous avons été frappés de cette stérilité parce que le péché a tué la vie en nous. Mais le Seigneur a voulu nous donner cette grâce. Il a reconstruit en nous cette vie que nous avions perdue par la stérilité du péché. Et l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Galates, reprend cette même image pour nous faire comprendre que la vie revient en chacun de ceux qui, stériles, se donnent à Dieu. Dans l'Épître aux Galates, au chapitre 4, j'aimerais lire le verset 19 avec vous, où l'apôtre Paul rebondit sur cette même image de l'enfantement pour nous faire comprendre quelle est la dimension extraordinaire du plan de Dieu à notre égard. Épître de Paul aux Galates, chapitre 4, le verset 19, Paul écrit ceci. « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. » Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Nous sommes tous ces êtres stériles à cause du péché qui a tué la vie en nous. Mais par sa grâce, Dieu nous fait la promesse que Christ peut être formé en nous. Ça, c'est le miracle de l'incarnation. Christ formé en nous. C'est le miracle de la conversion. Mais alors je me pose cette question ce matin. Je me trouve dans une certaine mesure dans la situation de ces enfants du miracle dont nous avons parlé ce matin. Ces enfants du miracle, c'est vous, c'est moi. Et je me dis, mais alors, si je suis cet enfant du miracle et que Christ doit être formé en moi, quel aspect de Jésus-Christ, quel aspect de son caractère, quel aspect de son ministère est-ce que je montre au monde autour de moi? Ma vie en tant que chrétien illustre quelle dimension du caractère et du ministère de Christ. Si je suis l'enfant du miracle, je serai comme ces enfants du miracle dont nous avons parlé ce matin et qui tous reflètent un aspect de ce caractère admirable et parfait de Jésus notre Sauveur. Mais alors, moi qui suis aussi l'enfant du miracle, moi en qui Christ veut être formé, qu'est-ce que je montre du caractère de Christ dans la personne que je suis aujourd'hui, moi l'enfant du miracle, celui qui a reçu la vie par la grâce de Dieu? Nous avons chacun nos caractères, nos capacités, mais nous sommes tous aussi cet enfant du miracle chez qui Christ veut être formé. Et je me pose la question pour moi, et je vous invite à vous la poser aussi pour vous aujourd'hui. Est-ce que ma vie de chrétien aujourd'hui est le reflet du caractère de Christ, de son ministère? Quelle dimension de sa vie le Seigneur Jésus m'a-t-il confié pour que j'en donne aujourd'hui le témoignage au monde? Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Et ce jour-là, il reviendra. Amen.